Chers amis de PFC, bonsoir, bienvenue dans cette réunion à Romainville du dimanche 16 novembre 2014, si mes comptes sont justes. Préparez-vous au changement. On va faire un petit tour de prénom, on peut saluer qui on veut. Ou juste dire son prénom.
Bonsoir, c'est Catherine.
Bonsoir, c'est Christine. Je salue Lina.
Bonsoir, c'est Ludmilla.
Bonsoir, c'est Claire. Je salue Juliette. Nicolas, Antoine, Valie, Jacques Dubois, voilà, et tous les autres.
Bonsoir, c'est Avi. Alors, je salue tous ceux qui, de près ou de loin, ont été un jour dans une réunion PFC que j'ai vue, que j'ai croisée. Ça inclut Roland, Intissar, Nina. Plein d'amour pour toutes ces personnes qui, elles aussi, se préparent au changement, qu'elles soient présentes ou pas présentes avec nous aujourd'hui. Voilà, nous sommes à Romainville, au beau milieu d'une, ou plutôt en fin d'une journée assez pluvieuse, mais dans la chaleur d'un feu qui crépite, et quelques personnes réunies aussi ici autour de ce sujet du changement à venir, que nous appelons de nos voeux, d'une nouvelle société plus juste, plus équitable, plus créatrice, plus heureuse à tous les niveaux, hein, au niveau personnel, au niveau de la connexion entre les êtres, au niveau de la créativité, au niveau de l'épanouissement, au niveau de la richesse intérieure et aussi du bien-être et du confort. Voilà, quelle que soit la voie que nous employons, c'est vers le bonheur que nous souhaitons nous diriger quand nous faisons ça. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais enfin bon. Moi, j'aime bien me rappeler que chaque être humain a envie d'être heureux. Il n'y en a pas un seul qui souhaite être malheureux. Ça, c'est quand même un super point commun. Donc, on peut dire que tous ceux qui sont présents dans cette pièce déjà sont d'accord avec ça, intérieurement, partagent ça. Et aussi, c'est moins évident, mais tout le monde a envie d'être libre. Je ne sais pas pourquoi je dis que c'est moins évident, c'est quand même assez évident que la liberté, ben, c'est un souhait fondamental. Personne n'a envie ni d'être conditionné, ni d'être emprisonné, ni d'être jugé, qui sont trois manières de ne pas être libre. Pas être laissé libre non plus. Donc, on est déjà d'accord sur deux points. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce désir de bonheur? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce désir de liberté, de constructif dans nos vies? En quoi ça rejoint le mouvement « Préparez-vous au changement » En quoi ça ne le rejoint pas? Voilà, c'est des choses sur lesquelles nous pouvons réfléchir. Ce que je sens, moi, c'est que ça va vite en ce moment. Et non seulement ça va vite, mais il y a des sortes de synchronicité, des choses qui sont dites dans plusieurs sphères différentes, mais qui disent des choses ressemblantes. Alors, il me vient à l'esprit un message que Sylvain Duboulet m'a envoyé cette semaine, qui parle de Phoebe. Je ne sais pas si vous connaissez cette femme, Phoebe, qui canalise quelque chose qu'elle appelle la voix. Sans lui donner de nom précis, c'est une entité qui donne des messages. Des messages qui souvent me parlent, et puis comme je les diffuse, ils parlent aussi à beaucoup de gens qui les reçoivent. Eh bien, le message de cette semaine était assez différent, et c'est même comme ça que Sylvain le présente, assez différent des autres. Phoebe et moi avons ressenti de nous asseoir en silence avant que je prenne la route, puis elle a pris ce message, le courant avec un C majuscule. Inexplicablement, les mots sont comme nouveaux, ils sont d'une fulgurante actualité. Voyez par vous-même. Alors, je suggère de le lire, il n'est pas extrêmement long, hein. Il y a peut-être une trentaine de lignes, on peut dire, quelque chose comme ça. Ça vous va ?
Oui.
Je ne l'ai pas encore diffusé sur le groupe de conscience, mais je vais le faire parce que il me parle. Alors, je vais essayer de mettre un petit peu plus de clarté dans mon appareil. Voilà. Très cher, soyez comme une brindille descendant le courant d'une rivière. Ce n'est pas le moment de s'engager dans un planning pour l'avenir. N'essayez pas de comprendre ce qui arrive durant cette période de grande transition de conscience dans laquelle l'humanité se trouve. Il est impossible de comprendre ce qui arrive lorsque, apparemment, cela vous arrive à vous. N'essayez pas de comprendre. N'essayez pas de planifier des événements futurs. N'essayez pas d'imaginer le futur et ne rêvez pas à ce qui va se passer. Tout cela n'est que futilité. Très cher, le plan de Dieu pour vous est tellement plus large et plus grand que tout ce que vous pourriez concevoir. C'est donc une perte de temps totale que de construire ou de comprendre le futur. C'est une période de lâcher prise ultime. Votre vie va changer. Ne mettez pas ce fait en doute. Waouh, ça frissonne. Si vous le pouvez, imaginez-vous comme une brindille qui descend le courant d'une rivière. Cela commence par un courant tranquille, et vous l'avez déjà expérimenté. Puis le courant s'accélère constamment. Vous êtes dans cette situation. La descente va s'avérer de plus en plus chaotique si vous continuez à vous focaliser sur des choses matérielles. Il est nécessaire de lâcher prise avant que vous n'atteigniez la cascade. Et lorsque vous y serez, si vous n'avez pas lâché prise vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose, vous tourbillonnerez comme un cure-dent dans l'avalanche de la cascade. Si bien que nous vous suggérons, au cours de la courte période qui reste, de vous concentrer sur le lâcher prise. Pour certains d'entre vous, cela ne s'applique pas, car vous avez intégré le message selon lequel la seule nécessité est d'aller en soi-même et d'être en paix. Pour les autres, essayez de prendre tout ce qui est dans votre vie avec légèreté et ne soyez pas perturbés par les changements extérieurs. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà fini cette leçon et qui l'ont apprise, l'attitude juste consiste à être ouvert. Nous savons qu'au cours d'une période de transition, tout être humain tente de trouver un sens à ce qui arrive. Toutefois, il n'y a aucun sens ni aucune compréhension au sujet des circonstances actuelles. Vivez tout simplement et appréciez les moments que vous pouvez apprécier. entourez-vous de personnes aimantes qui sont plus ou moins au même niveau de conscience. Nous ne vous disons pas d'oublier ceux qui ont des convictions différentes. Simplement prenez leurs conversations et leurs attitudes avec légèreté, tandis que vous arrivez à la vérité. Voici la vérité. Deux points à la ligne. Tant-tant-tant ! Vous êtes dans une période de transition, entre parenthèses, un énorme changement de conscience. 2. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui arrive, alors n'essayez pas. 3. Le résultat final que l'on ne peut imaginer sera bien au-delà de tout ce que vous pourriez concevoir. 4. Ce résultat sera bénéfique pour tout le monde, oui, tout le monde. Alors, lâchez prise et descendez le courant de la rivière de la vie. Chacun a reçu un gilet de sauvetage, même si certains ne le reconnaissent pas. Rappelez-vous l'idée d'un filet de sécurité céleste. Vous pouvez tomber, mais vous ne pouvez pas vous briser. Vous serez toujours rattrapé par les bras d'êtres de lumières invisibles ou des anges, selon la manière dont vous désirez les voir et les imaginer. Quel risque seriez-vous prêt à prendre si vous saviez que vous êtes toujours en sécurité? C'est cela que vous apprenez, c'est la leçon. Voici la question à poser pour le petit laps de temps qui s'en vient. Quel risque serais-je disposé à prendre si je savais que je suis toujours en sécurité? Nous vous bénissons tous et nous vous assurons de votre sécurité. La voix. Pas commun ce message, hein?
Tu l'envoies, effectivement.
Je vais l'envoyer, oui, oui.
Je peux diffuser.
C'est prévu, c'est prévu.
Ah, t'as vu ça? C'est complètement... Non, mais...
Voilà, ceux qui parlent, parlez dans le micro, sinon on n'entend pas vraiment vos réactions.
Ah, ça fait du bien, Claire. ça tombe vraiment bien, ce message, parce que tout à l'heure, j'arrivais à rien visualiser, sauf si j'arrivais à visualiser un désir de création d'école, mais bon, je m'en sens pas vraiment capable, mais à part ça, j'arrivais à rien visualiser, et je me demandais si c'était pas une immense pièce de théâtre tragicomique dans laquelle j'étais embarquée à PFC, en me demandant, mais finalement, il se passe rien, est-ce qu'il va vraiment se passer quelque chose, est-ce que c'est pas de l'illusion, enfin, j'avais plein de questionnements, je me sentais un peu... je savais pas si j'étais dans l'illusion, pas l'illusion, enfin... Pas très bien, à la suite de discussions qu'on a eues avec Cathy et Avi, et j'étais très chamboulée. Et aussi dans ma vie, je me suis dit, mais en fait, ça stagne, qu'est-ce que tu crées? Enfin, j'avais beaucoup de choses, j'avais plein de questions qui remontaient là, qu'est-ce que tu crées toi dans ta vie? Enfin, d'un seul coup, j'étais très très déstabilisée. Et ce message, bon, il ne m'apporte pas vraiment une réponse concrète, mais l'idée du lâcher-prise, ça me parle. J'ai déjà vécu ça une fois très fort dans ma vie, quand j'ai eu un petit garçon qui est né à 6 mois et demi, ce que je racontais tout à l'heure, et que je savais qu'il pouvait vivre ou mourir. Il était vraiment entre l'état de vie et de mort. Et j'ai vraiment vécu cet abandon, je dirais, à la divinité en moi et à l'extérieur de moi. Et j'ai vraiment reçu un accompagnement d'une présence très probablement lumineuse, puisque moi, ce que j'ai ressenti, c'est une très grande légèreté, enfin une très grande légèreté, une plus grande légèreté pendant 4 jours. Donc c'est peut-être ça le sens de ce message. Ce moment qui peut être assez déstabilisant, en tout cas qui l'est pour moi et qui l'est pour probablement des millions de personnes, eh bien si on se laisse aller, on n'a plus peur, En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Il nous est probablement demandé de faire confiance. Merci, Avi, de nous avoir lu ce texte de la voix.
Voilà, en même temps, Cobra annonce une nouvelle fenêtre d'opportunité pour l'événement qui va démarrer le 15 décembre. Beaucoup parlent du solstice d'hiver, le 21 décembre, qui pourrait être un événement énergétique puissant. Enfin, les solstices sont par nature des alignements énergétiques, donc ils portent en eux une certaine puissance et ils peuvent aussi être porteurs de transformation, de changement. Bon, on se rappelle toute la motivation des travailleurs de lumière il y a 2 ans, le 21 décembre 2012, hein, ce brillant non-événement. Et en même temps, est-ce que l'événement, c'était pas simplement de se rassembler au nom de la lumière ce jour-là et de ressentir la fraternité de ces réunions? Pour ma part, c'était un vrai événement intérieur. Je suis surpris de l'arrivée de magiciens hors du commun dans la sphère des informations que je reçois. Il y a au moins 3 magiciens dont je ne connaissais qu'un seul il n'y a même pas une semaine, et 2 autres se sont rajoutés. Le magicien que je connaissais, c'était un Chinois qui s'appelait Yif, Y-I-F, dont j'ai diffusé quelques vidéos sur Être Plus. Alors c'est vraiment bluffant parce que ça parle de réorganiser la matière. Il prend un kiwi, il prend une pastèque, il fait un petit geste, et puis ensuite il coupe la pastèque et le kiwi est dans la pastèque. On voit le rose de la pastèque et le vert du kiwi en plein dans la chair de la pastèque. Alors, certains parlent de montage vidéo. Alors, bien sûr, jamais tu n'accepteras une vérité dont tu ne veux pas. Hein. Si tu ne veux pas de la vérité, moi, j'ai entendu ce... À propos d'Yves, hein, j'ai entendu cette interprétation que tout ça c'est possible au moyen de montage vidéo. Chacun croit ce qu'il veut, hein, il n'y a pas de problème. Alors, Yves possède une sorte de pouvoir avec ses mains de réorganiser les choses, il peut faire bouger des objets, il peut lire dans les pensées. Voilà. Ensuite est venu Dynamo, hein, un Anglais, un jeune Anglais. Alors, la caractéristique de ces 3-là, c'est qu'ils sont jeunes. Mm-hmm. Message, hein, message. Mm-hmm. Nouvelle génération, ADN différent, qui sait. Mais ils sont jeunes tous les 3. Donc, le deuxième, c'est Dynamo, comme une dynamo de vélo. C'est pas son vrai nom, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. Et puis, hier, je me suis dit, pourquoi Dynamo? Ah, c'est relié avec fabriquer de l'énergie, une dynamo. Ça crée de l'électricité. Tourner et puis produire de l'énergie. Hein. Donc, je me suis dit... Alors, les vidéos sont vraiment très, très puissantes, hein, selon votre niveau de croyance.
Non, je voulais juste préciser, c'est pas seulement qu'il réorganise la matière, il matérialise la matière. Il matérialise du pain, de la nourriture. Et puis,
voilà, c'est ça. Oui, Dynamo sort d'un petit sac à dos qui fait 30 cm. Il sort une planche de surf qui fait 80 cm. Et il la sort et les vendeuses ouvrent le sac et ne comprennent pas d'où c'est sorti. Et en plus, il sort la planche que la vendeuse a visualisée, a choisie parmi les innombrables planches du magasin. Il sort la planche à laquelle elle avait pensé, de son sac à dos à lui, hein, précisément. Alors, on dit que la matière est illusion, le monde matériel n'existe pas vraiment, c'est nous qui le fabriquons avec nos pensées. Bref, est-ce que moi, au-delà de l'aspect bluffant qui déjà est beaucoup, je me dis pourquoi ça se multiplie dans notre société là, hein, parce qu'il y a YIF, il y a Dynamo, et il y a un Français, un troisième, que je ne me rappelle plus son nom. Mais en surfant sur Dynamo, je suis arrivé à ça. Et ces deux derniers, je ne sais pas si Yif le fait, mais ont un genre de pouvoir sur la gravitation, peuvent tenir debout sur une jambe complètement à l'arrière, à l'horizontale, sans tomber. Dynamo descend un immeuble à 90 degrés en marchant sur la paroi verticale. Voilà, il y a eu un film complet qui est apparemment passé sur France 4, et puis en Angleterre il y a plusieurs séries maintenant, c'est carrément saison 1, épisode 2, Dynamo, ça devient un phénomène. Là, cet après-midi, j'ai vu, il a emprunté une voiture de quelqu'un qui fait des dérapages sur un circuit privé. Il a demandé à toutes les voitures de faire un cercle autour de lui, de manière à ce qu'il n'y ait pas de possibilité de sortir en voiture du cercle. Il a commencé à faire des tours en dérapant, et ça faisait plein de nuages de sable. Hein, donc, ça a un moment complètement occulté, il y avait un brouillard... Et quand le brouillard s'est levé, la voiture n'était plus là. Et il était parti. Après, je vous en dis au hasard, parce que c'est...
La lévitation à Rio de Janeiro.
Oui, je te passerai le micro. Non, elle veut incognito. Alors, une autre vidéo assez bluffante, c'est dans une bijouterie, il demande à la vendeuse ou à une cliente, je ne me rappelle plus, de choisir le plus bel objet précieux qui est dans des vitrines en verre, bien fermées. Elle choisit un super beau bracelet. À ce moment-là, il pose une main sur la vitrine et avec sa deuxième main, en l'espace de 10 secondes, il traverse la vitre, prend le bracelet et ressort de la vitrine et offre le bracelet à la dame. Alors là... C'est plus besoin de braquer avec des revolvers, quoi, les bijouteries. On peut se servir à travers la vitrine. Et puis, il disparaît de quelque part, il réapparaît ailleurs, de l'autre côté d'un miroir, d'une rue, d'une vitrine. Alors, pour moi, qu'est-ce que j'entends ? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous préparer au changement ? C'est le cas, on est dans la bonne réunion. C'est-à-dire au changement de nos capacités, de nos dons qui se réveillent. Si vous êtes curieux, écoutez au lieu de voir les vidéos de Dynamo, écoutez les paroles. Et il y a des messages que tout est possible. Il y a des messages. Voilà, Yif aussi. Quand on arrête de croire que nous sommes limités, tout devient possible. Et peut-être, ce sont ces trois messagers, qui sait si ça va se multiplier, qui viennent nous dire, réveillez-vous à vos talents. Parce qu'en même temps, il lit dans les pensées d'une personne à livre ouvert. Hein, il demande de penser à un prénom, à une personne... À même un endroit en Australie qui est tellement inconnu de tout le monde que ça ne peut pas être le hasard. Il dit précisément ce à quoi la personne pense. Les tours se multiplient, ils sont tous Et puis, une des belles caractéristiques, c'est que, apparemment, c'est un homme très humble, qui ne cherche pas la gloire, qui ne cherche pas le succès. Et il fait son tour, un des tours qu'il fait, Guy le faisait aussi d'ailleurs, c'est un point commun entre les deux. Il prend le téléphone portable de quelqu'un, il demande une bouteille, et puis en 5 secondes, il frappe le téléphone contre la bouteille, et le téléphone se retrouve dans la bouteille. En verre, hein. Donc impossible. Et après il dit, je vais vous expliquer comment je fais. Alors là, c'est le summum du summum. Il prend le téléphone et il dit, vous voyez, ça ne rentre pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Il fait un petit mouvement de la main, il dit, je rétrécis le téléphone. Et en même temps, le téléphone devient tout petit. En une seconde, il le fait passer par le goulot. Et après, il dit, et à ce moment-là, hop, je lui redonne sa taille d'origine. Et donc, c'est une pseudo-réponse, parce qu'en fait, il nous bluffe encore plus. Donc, c'est assez réjouissant de voir que Jésus disait, ce que j'ai fait... Vous pouvez le faire et même davantage. Et ça m'a un petit peu rappelé, d'ailleurs, Dynamo marche sur l'eau, entre autres choses qu'il fait. Lévite au Brésil, devant. Et c'est vrai que cette statue-là, c'est Jésus. C'est Jésus. Donc, voilà, un rapprochement avec Jésus aussi. Il marche sur l'eau, il est dans la position de Jésus. Il demande à une touriste de le prendre en photo, et au moment où elle le prend, il commence à s'élever dans les airs et à avoir exactement la même... Voilà. Alors, je n'ai pas envie de me centrer sur les tours en eux-mêmes ou sur le côté sensationnel, même si ça l'est, mais plutôt sur pourquoi ça se multiplie en ce moment. Et qu'est-ce que nous avons à entendre de ces manifestations qui ne sont pas de l'illusion, ce ne sont pas des illusionnistes, parce qu'ils ne travaillent pas sur notre mental, pas que je sache, hein, ce ne sont pas des prestidigitateurs qui ont une qualité dans les mains ou cachent des choses, etc. Donc, c'est une nouvelle espèce de magicien. Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir?
Catherine, donc ça y est, j'ai quelque chose à dire. Parce que au départ, j'avais rien. Mais maintenant, ça me vient. Voilà. Donc, par rapport à la question que tu poses et puis au message, ce qui fait écho, c'est, pour moi, ça fait écho. Croyez dans vos expériences, croyez dans ce que vous ressentez, croyez dans ce que vous avez compris, dans ce que vous avez lu, etc. Et je le mets en parallèle avec deux, trois petites expériences que j'ai envie de raconter, mais juste pour que ça fasse sens. D'abord, au niveau du message, pour moi, c'était une réponse, parce que quand je suis venue, je me suis aperçue que j'avais des attentes par rapport au futur et pas tellement des choses à lâcher du passé, je pense que ça c'est déjà fait, mais plutôt à lâcher du futur, à lâcher des attentes du futur et des envies de concrétisation. Et là le message, j'entendais comme si moi ça me disait, Catherine, arrête de vouloir concrétiser tout de suite des choses du nouveau monde parce que tu n'as même pas idée de ce que ça va être. Donc sois juste maintenant... pour t'occuper de grandir à l'intérieur et de reconnaître ce qui est en train de se passer en toi. C'est-à-dire vraiment reconnaître. Parce que là, les choses qu'on vient de partager avec Yves, avec Dynamo, ce que Claire a dit, Avia a dit, je m'aperçois que ça fait écho à des choses, des expériences que j'ai vécues, des prises de conscience que j'ai eues et que j'ai reléguées souvent sur le plan de la coïncidence, de l'anecdote, etc. Sachant très bien que les coïncidences n'en sont pas. Je sais tout ça et je vous partage ça parce que je suis sûre que je ne suis pas toute seule à faire cela. Donc, pour être plus concrète, par rapport à ces histoires de matérialisation, de lévitation, etc., tout à l'heure, hors antenne, j'ai partagé trois expériences avec Claire, une prise de conscience et deux expériences. Donc il y a une expérience que je pense que la plupart d'entre nous avons fait en méditation, surtout si je fais une méditation allongée, mais c'est pas une relaxation, c'est vraiment une méditation mais allongée. Si vraiment je suis très détendue et très centrée, j'ai observé que j'avais l'impression que mon corps était comme monté sur un, comme un bibendum, monté sur des coussins d'air. Et au bout d'un certain temps, j'ai la sensation d'avoir les bras qui décollent du sol légèrement. Et pour avoir ouvert les yeux à ce moment-là et vérifié, c'était effectivement le cas. Les bras décollaient du sol. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai une sensation de m'alléger et de ne plus être vraiment sur le sol. Et effectivement, j'avais les bras qui étaient légèrement décollés. Donc, à l'époque, à chaque fois que ça m'arrivait, j'ai relégué ça sur le plan de l'anecdote, bon, vue de l'esprit, etc. Mais je pense que ça peut faire lien. Alors, une deuxième expérience qui est plus forte et plus qui pose plus de questions, ça m'est arrivé il y a beaucoup d'années, quand j'étais avec une amie, on préparait le bac et on avait donc dormi dans une maison. Et puis donc on partageait une chambre et c'était une petite chambre. Pour gagner de la place, on avait poussé les deux lits l'un contre l'autre et contre le mur. Il ne restait plus qu'un petit espace avec la porte. Donc il y avait la porte d'entrée, un espace peut-être qui faisait un mètre de large, puis le lit de mon ami, puis mon lit, puis le mur. Et donc nous dormions. Et je rêve qu'un camion fonce sur moi et qu'au dernier moment, donc je me propulse sur le bas-côté pour éviter d'être écrasée. Et donc, je me suis réellement, physiquement propulsée sur le bas-côté puisque je me suis retrouvée entre la porte et le lit de mon ami. C'est-à-dire que je dormais, j'étais allongée et j'ai fait un vol plané allongé à partir de mon sommeil par-dessus le lit de mon ami et je me suis retrouvée par terre de l'autre côté. Réellement. Je n'ai aucune explication de comment ça a pu se passer. Je suis absolument incapable de sauter en étant couchée, allongée, et encore plus de faire... vous voyez, un lit, ça fait un mètre de large, donc voilà, et encore plus en étant endormie. Et pourtant, je l'ai fait. Donc, quand je mets en lien... ces expériences de YIF, de dynamo, l'état de méditation où on est dans une très grande relaxation, détente, et puis ça. Et je mets en lien également avec un rêve que j'ai fait. Donc, je pense que la plupart d'entre nous aussi avons rêvé de voler. Hein, donc, je lévitais dans mon rêve, je montais comme Dynamo le fait. Il y a une vidéo de Dynamo où il lévite à Rio de Janeiro, devant le Christ qui est sur le pain de sucre. Il lévite. Et dans ce rêve, j'étais dans la foule et je lévite aussi. Et je me souviens que les gens essayaient de m'attraper par les pieds. Et dans mon rêve, je me disais, n'y prête pas attention, ne les regarde pas. Continue, c'était vraiment le message. Et puis j'avance comme ça, et les gens en dessous étaient dubitatifs. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle croit? Elle va y arriver? Et moi je lui disais, t'occupe pas d'eux. Et je me retrouve face à un mur, un grand mur d'une grande bâtisse. Donc ça aussi c'est assez évocateur. Et je me dis, bah là, soit je redescends avec les autres, soit je traverse le mur. Il n'y a pas de solution. Et je me souviens très bien qu'à ce moment-là, j'ai eu la sensation dans mon rêve de me dilater, c'est-à-dire que tous les atomes de mon corps se dilataient, traversaient les murs comme la farine passerait à travers un tamis, quelque chose comme ça, et se reconstituaient de l'autre côté. C'était un rêve, bien sûr, mais je m'en suis souvenue et je m'en souviens toujours comme étant quelque chose de potentiellement vrai, ou disons qu'il y a une vérité là-dedans. Voilà, et que je mets en écho avec mon expérience de sauter par-dessus le lit à partir de l'attitude allongée, de la méditation où je trouve que la sensation est du même ordre. Quand j'ai fait cette méditation, je ressens cette dilatation qui est du même ordre que ce que j'ai ressenti dans le rêve. Et pour moi, ce qui se passe avec Dynamo, Yif et d'autres, même des maîtres yogis qui lévitent, c'est, je pense, de cet ordre. Sauf que, certainement, au lieu d'en douter comme moi ou de le reléguer sur le plan de l'anecdote, eh bien, ils suivent le filon. Et je pense que c'est peut-être ce qui nous est demandé en ce moment, et la teneur du message, et ce qui nous est demandé, c'est arrêter de douter. Toutes ces petites choses-là qui vous viennent en rêve, toutes ces synchronicités, toutes ces choses, mais suivez ça, suivez-le. Et on ne s'occupe pas de changer le monde ou quoi que ce soit, on suit ça, et ça, ça va tellement nous créer de changements à l'intérieur que forcément, ça va en créer dans nos vies, et donc forcément collectivement dans le monde.
Alors le troisième magicien, j'ai retrouvé son nom si ça intéresse quelqu'un, c'est Senzo, S-E-N-Z-O. Voilà, et puis là il est dans cette, oui c'est un français, enfin il s'exprime en français courant, dans cette image que je montre, on le voit sur ses deux pieds, mais complètement penché en arrière à 90 degrés, en état qui normalement serait un flagrant déséquilibre, mais tenant.
Passer la vidéo, là.
Je ne sais pas si c'est très parlant sans les images. Après le groupe. Donc vous pouvez chercher Senzo, S-E-N-Z-O. Voilà, alors, parlant de nos talents, hein, de nos talents qui sont à révéler, il m'est venu quelque chose. Il y a déjà 2 ou 3 ans, lorsque je faisais une méditation avec des amis, c'était une méditation offrande au soleil, quelque chose d'assez fort. Hein, on l'a fait ici à Romainville, avec Didier Bonneville, et puis... on visualisait des choses et puis on amenait le soleil, l'énergie du soleil dans le cœur, dans le troisième œil, etc. Pour la première fois de ma vie, dans cette méditation, j'ai senti frétiller quelque chose dans mon crâne. Et waouh, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose qui pétille. Et puis, à la suite de cette méditation, simplement en centrant mon attention sur le haut du crâne, j'arrivais à reproduire ça. Et je me dis, c'est quoi? C'est de l'énergie, la pensée agit sur la matière. Moi, j'ai commencé à me dire, ça se passe. Hein? Et puis j'ai installé finalement le Starship, le vaisseau étoile, pléiadien formé des anneaux de cuivre, j'ai finalement réussi à le monter, même s'il est un peu ovoïde, mais je me pardonne pour ça, parce que c'était difficile à construire, les soudures cassaient tout le temps, mais j'ai tenu bon et je l'ai quand même monté avec un beau cristal au centre, et en ce moment il est en train de tourner tranquillement, en sens inverse des aiguilles d'une montre, mais c'est moi qui l'ai fait tourner tout à l'heure, hein. Il semblerait que parfois il puisse tourner de lui-même en fonction de la météo, du temps, en fonction des énergies de la pièce. Donc quand je me mets en dessous de ce mobile pléiadien en cuivre, c'est en fait 4 anneaux de cuivre interlacés. Même les soudures sont recouvertes de fils de cuivre pour que ça conduise le courant partout. Avec un cristal qui pend au centre géométrique approximatif de la sphère. Quand je fais tourner ce mobile sur lui-même et que je me place en dessous, en bougeant un peu ma tête à droite, à gauche, et à un moment donné, je sens que ça me chatouille le crâne. Et je sens que si je me déplace un peu, ça s'arrête. Si je me remets bien, ça reprend. Et donc, c'est visiblement l'effet de ce mobile. Et il m'est venu une idée en voyant Dynamo agir sur la matière, parce que souvent, il projette sa main sans rien toucher, et puis il y a une carte qui sort du paquet toute seule, ou une bague qui était sur la table, qui monte dans sa main. Enfin, il agit sur la matière. Je me suis dit, j'en suis capable. Si lui en est capable, j'en suis capable. Il est peut-être galactique, peut-être moi aussi. Hein? Groupe de conscience, ça veut peut-être dire galactique channeling, voilà. Galactique co-créateur. Donc, je me suis dit, comment le savoir? Il faut s'entraîner. Je ne vais pas déplacer un cristal de 1 kg juste en essayant. Non, je vais commencer quelque chose de léger. Si je peux déplacer quelque chose de léger, ensuite, je prendrai quelque chose de plus lourd. Et aujourd'hui même, je me suis dit, un bout de sopalin minuscule, qui pèse un dixième de gramme ou un centième de gramme, je vais centrer toute mon attention dessus, soit en me mettant dans le troisième œil qui, paraît-il, quand il est bien entraîné, peut terrasser des gens carrément, les mettre à terre. Ça c'est.
Il a arrêté.
Ah oui.
Je viens de lui dire s'arrêter. Ça fait depuis tout à l'heure, je lui ai dit de s'arrêter.
Il s'est arrêté.
Je te jure.
Alors, nous vivons, chers auditeurs, nous vivons les événements en direct. Cathy a ordonné au mobile de s'arrêter et en effet, il ne bouge plus. Alors que c'est un mouvement qui dure assez longtemps quand même. Tu peux le faire repartir dans l'autre sens.
Écoute, je vais te dire un truc. C'est qu'au début, quand tu as parlé de ça, je me suis dit, je vais lui dire de partir dans l'autre sens. Et je lui ai dit, pars dans l'autre sens, pars dans l'autre sens. Et quelque chose m'a dit, demande d'abord de s'arrêter. Et je lui ai dit, arrête-toi maintenant. Et ben, oh là 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 là, ça m'impressionne. Ok. Donc là, on est en train de nous dire que notre esprit est très créateur et qu'il faudrait peut-être qu'on en prenne conscience, tu vois.
Alors, les êtres qui diffusent le plan d'assemblage de ce mobile disent que on peut lui parler comme à un être humain. On peut lui dire bonjour le matin et que il a une relation avec nous. C'est pas un objet parce que c'est une technologie qui vient de l'Atlantide. Voilà, il est vraiment reparti.
C'est ce que j'avais demandé au début.
Dans l'autre sens. Oui, oui, oui. Je ne sais pas exactement, peut-être c'est un concentrateur d'énergie, mais qu'on peut s'adresser à lui.
C'est énorme. Attends, je voudrais dire quelque chose, parce que c'est vraiment énorme, parce que ça m'est venu constamment. Et là, pour dire par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, au début je me suis dit, je vais lui dire de tourner dans l'autre sens. Je ne sais plus ce que tu as dit tout à l'heure, mais ça m'a donné l'idée de lui dire ça. Et puis après, j'ai eu cette idée où on m'a soufflé de lui demander d'abord de s'arrêter. Et tu vois, j'étais là et j'avais mon mental qui me disait, plutôt j'avais quelque chose en moi qui me disait, tourne-toi vers lui, face à lui. Et mon mental disait, mais non, on est en réunion, dadada, avis parle, faut, tu vois, la résistance. Et finalement, je l'ai fait. Je sentais que ça allait se faire, que c'était possible. Mais je trouve ça très très important parce que.
Qu'est-ce qu'on s'amuse.
Oui. On est super créateurs, hein. Non mais franchement là.
Micro.
Waouh. Merci, je dis merci.
Je voulais te demander, Avi, alors est-ce que le sopalin, tu as réussi à le faire se déplacer? Non.
C'est une pensée d'aujourd'hui.
Ah bon, d'accord. Mais c'est vrai que. Je ne sais pas comment vous avez réagi quand vous avez vu la vidéo de Dynamo, pour ceux qui l'ont vue, mais moi j'ai été très émue, j'ai eu envie de pleurer, et j'ai immédiatement associé ça donc à Jésus. Bon, c'était pas très difficile peut-être, mais enfin en tout cas ça m'est venu, et je me suis dit c'est pas du tout de la magie, pas du tout, ça n'a rien à voir. Et j'ai ressenti vraiment une connexion du cœur, je me suis dit c'est... Bon, extrêmement émouvant, toutes ces possibilités que peut-être un jour nous aurons, ou peut-être certains ont déjà, chez les terriens. Paraît-il qu'il y a des millions d'extraterrestres, positifs et négatifs, chez nous, sur la Terre. En tout cas, voilà, je veux dire que j'avais aucun doute que pour moi, c'était absolument pas de l'illusion, de l'illusionnisme ou de la prestidigitation, et que jamais un instant j'ai pu penser qu'il y avait un trucage. Ça m'a même pas effleuré l'esprit. Voilà, voilà, voilà. En fait, peut-être que je suis une grande naïve. J'ai toujours, on me disait beaucoup ça quand j'étais petite, que j'étais naïve, je le vivais pas très bien. Crédule, naïve. J'ai surtout une très grande ouverture et je suis persuadée que, comme avis, j'ai le même avis qu'avis, sans vouloir faire de jeu de mots. Pour moi, ce sont des signes, ces êtres-là qui sont sur la Terre, probablement qu'il y en a beaucoup plus que trois, il y en a probablement des milliers. Ce sont des signes, ce sont des signes qui, pour moi, qui disent voilà ce que l'humanité va abriter en son sein sous peu, et voilà ce que vous, les humains, vous allez être conduits à pouvoir réaliser par rapport à la matière, car la matière, effectivement, sur un certain plan quantique, n'existe pas réellement. Enfin, elle est pleine de vide. Il y a énormément d'espace partout. Et nous, on a l'illusion qu'il n'y en a pas. Voilà, j'aimerais bien être capable de pouvoir avoir une telle puissance sur la matière. Ça me fascine beaucoup. C'est un champ des possibles.
Voilà, puis j'ai pas encore tout lu, mais il y a une série de questions-réponses dans le document pour construire le mobile. Et il dit, une des questions, c'est comment ça se fait que mon vaisseau étoile ne tourne pas constamment. Et il dit, ces vaisseaux suivent leur propre chemin, direction et tempo. Ils réagissent aux stimuli extérieurs aussi bien qu'aux stimuli intérieurs. Ils tournent quand ils tournent. Donc il y a quelque chose de l'ordre du c'est comme s'il y avait une intelligence propre, une conscience propre. Donc il semble que l'énergie de ce mobile dérange les personnes qui ne sont pas alignées. Et donc lorsque c'est inconfortable pour les personnes qui ne sont pas bien alignées de s'asseoir à côté, et ça repousse les insectes nuisibles tels que les frelons, les choses qui piquent, les choses comme ça, parce que c'est sa nature aussi d'harmoniser les énergies. Le but, c'est harmoniser les énergies dans la maison. Alors, peut-être que j'en construirai un second, parce que j'ai vu que les mesures qu'ils ont données pour le construire n'étaient pas très cohérentes, sachant qu'il y a deux ronds identiques qui doivent être insérés l'un dans l'autre, et donc ça, j'ai eu beaucoup de mal, et les soudures ont lâché. Donc, il me reste encore un peu de cuivre. Voilà, et peut-être, si j'ai le courage, avec des nouvelles dimensions, je reconstruirai ça pour qu'il soit parfaitement sphérique, parce que là, il est un peu ovoïde. Mais je pense que ça ne doit pas vraiment gêner l'énergie. Alors, est-ce que les vaisseaux sont mâles ou femelles? Tous les vaisseaux sont androgynes. Bon, j'ai pas encore tout lu, mais je le... Alors, pourquoi l'appelez-vous vaisseau pléiadien? Parce qu'il s'appelle Flagship. Flagship, c'est, je ne sais pas, vaisseau, je ne sais pas, flag, c'est drapeau. Hein, mais...
ouais, c'est comme soucoupe volante, un peu. Hein,
alors, pourquoi il s'appelle Pléiadien? Parce que les Pléiadiens nous ont donné la formule du flagship en cadeau. C'est aussi la même construction qui a été utilisée dans les jours pré-Atlante par les Pléiadiens. Et le terme flagship est un terme subjectif qui se relie à vaisseau mère, qui est le vaisseau qui dirige.
Est-ce que flagship, c'est un peu vaisseau bannière, vaisseau écusson?
Je ne sais pas. Oui, c'est en tout cas, ça parle d'emblème, oui, ça parle de ça.
Oui, je lui commande le pissenlit. Et il part dans l'autre sens, c'est ce que je lui demande.
Ah, il s'est arrêté à nouveau. Oui.
Et il part dans l'autre
Claire
sens.
Est en train de...
Ça fait 5 minutes que je déploie mon troisième œil. Et part vers le droit. Oui, ça marche, ça marche, ça marche. C'est toujours, c'est très subtil. Regardez, il part vers la droite. C'est moi qui commande depuis.
Il y a une excitation. On est en pleine séance de spiritisme.
Ça nous enseigne pour le quotidien surtout, hein. Voilà.
Il a changé de sens, il part à droite. Et c'est génial. Il était vers la gauche, il est vers la droite.
Oui.
Alors on peut revenir à la réunion. Et ensuite, on pourra discuter de ça, parce que c'est pas tellement audible, hein, ce que vous pouvez dire en dehors du micro. Alors,
il faut juste faire le lien avec le quotidien, quoi.
Voilà, le lien avec le quotidien, nos pouvoirs. Moi, je vais essayer de m'entraîner chaque jour à focaliser 10 minutes mon esprit sur... une chose très légère, avec l'intention de la déplacer. En même temps, je dirais aussi attention à ne pas me focaliser sur l'illusion. Hein. Parce que la matière est illusion. Si je donne tout le pouvoir à avoir des pouvoirs, bah, j'oublie l'être divin que je suis.
Oui, alors par contre, j'entends bien ce que tu dis. Pour moi, c'est pas ça ce que ça induit. Là, l'expérience de ce soir, pour moi, elle me dit, vois Catherine, comment tes pensées ont un impact dans ta vie. Voilà. Donc, ça veut dire que si avec ma pensée, je peux faire arrêter ce mobile, ce dispositif et le faire tourner dans l'autre sens, et clair aussi, ça veut dire que ma pensée a énormément plus de puissance que ce que je crois. Or, comme chacun d'entre nous, j'ai 60 000 pensées par jour. Donc, du coup, il faut c'est pas juste une théorie ou une vue de l'esprit de dire que nos pensées influencent la matière. C'est là, on vient de constater que c'est une réalité et beaucoup plus grande que ce qu'on croit. Donc, du coup, vraiment surveiller... Enfin, pour moi, c'est ça l'enseignement de ce soir. Surveiller mes pensées et par contre, effectivement, m'en servir pour servir, quoi. Et construire. Parce que réellement, on peut le faire, quoi. Voilà. Pas du tout pour faire de la magie, mais réellement par rapport à ça, quoi. C'est ça l'enseignement.
Alors, le message de Phoebe nous parle d'un changement de conscience. Le message de Prepare for Change nous parle d'un changement de conscience. Le changement de conscience, si nous passons dans une autre dimension, c'est la fréquence vibratoire qui change en même temps que notre conscience. Fréquence vibratoire, densité, conscience qui évolue sont intimement reliés. Les êtres de cinquième dimension sont moins denses que nous. Et donc, le changement de conscience peut également développer nos pouvoirs, parce qu'il y a aussi des pouvoirs à l'intérieur de nous qui sont bridés par les conditionnements, par les implants, des choses comme ça. Et si nous mettons notre énergie à déployer nos pouvoirs d'origine, ce changement de conscience-là, pour moi, inévitablement, il s'accompagne d'un déploiement de pouvoirs nouveaux. On parle d'enfant indigo, on parle d'enfant cristal, c'est ça. C'est l'ADN qui a des portions qui sont invalidées, et puis chez ces enfants-là, les portions de... où il y a des brins d'ADN supplémentaires, où il y a des portions qui sont révélées, qui sont codantes au lieu d'être juste désorganisées.
Par rapport à ça. Et donc, toujours par rapport à ce que dit Avi, moi, dans mon expérience, j'ai l'impression qu'effectivement, donc c'est Catherine qui parle, qu'il y a des choses qui se développent en moi, des talents qui se développent, mais je ne sais pas si c'est tant des talents qui se développent ou qu'ils étaient déjà là et que c'est l'attention que je porte dessus, c'est-à-dire que tout d'un coup, je les reconnais. Parce que là, ce qui vient de se passer, je pense que c'était quelque chose que je faisais tout le temps en toute inconscience. Je donne un exemple par rapport aux rêves. Je me souviens à peu près jamais de mes rêves, genre 3 fois par an, franchement. Hein. Et dernièrement, je me suis dit, mais quand même, Catherine, ce serait bien que tu te souviennes, tout ça, il y a des enseignements dans les rêves. Ok, la nuit, le soir avant de m'endormir, je me dis, cette nuit, je me souviens de mes rêves. Et puis c'est tout, hein. Je me suis couchée, puis voilà. Le lendemain, je me souvenais de mes rêves. Bon, la nuit suivante, j'oublie de me le dire. Le lendemain, je ne m'en souvenais pas. La troisième nuit, j'oublie de le dire. Le lendemain, je ne m'en souvenais pas. Quatrième nuit, je dis, ah, au fait, j'avais oublié. Cette nuit, je me souviens de mes rêves. Le lendemain, je m'en souvenais. Alors là, je me dis, c'est dingue ça. Parce que je n'ai pas fait une méditation d'une demi-heure pour me dire, je me souviens ou pas de mes rêves. Juste, soit j'ai oublié, soit je me suis dit, je m'en souviens. Et pouf, ça y est, pile poil. Donc, ce que je veux dire par là, je ne sais pas si c'est que j'ai augmenté mon pouvoir de décision, création de ma vie, certainement oui, mais il y a aussi une part qui est que tout d'un coup, je vois ma pensée qui crée et que je ne me rendais pas compte avant. Alors peut-être 50-50, je ne sais pas, mais voilà. Et aussi une autre chose, pour rester là-dessus, mais parce que peut-être ça peut faire écho, et ça c'est encore un autre type d'expérience. En danse, je pratique la danse, et en exercice à deux, on a fait un danse et l'autre est témoin, et je me suis aperçue à plusieurs reprises, différentes fois où j'ai fait cette expérience, que quand il m'arrivait des fois d'avoir les larmes aux yeux quand l'autre dansait. C'est-à-dire qu'au départ, moi, je me sens super ancrée, vachement bien, joyeuse, détendue, enfin, nickel. L'autre danse, je suis témoin, il n'est pas forcément en train de pleurer, je vois qu'il se débat avec un truc, et tout d'un coup, il y a des larmes qui montent aux yeux. Et les premières fois, je me suis dit, oh là là, Catherine, ça y est, qu'est-ce que tu es en train de ramener, machin, bon. Parce que j'ai une tendance comme ça à beaucoup me juger, à beaucoup, j'ai une base très mentale, on va dire, hein. Et puis deuxième fois, troisième fois, jusqu'au jour, enfin c'était pas plus tard qu'hier, où je me suis dit, mais t'es juste, Catherine, en train de capter le truc de l'autre, quoi. C'est une sorte de médiumnité que peut-être t'as toujours eu, mais que t'as jamais vu, t'as toujours pris pour toi, alors que c'est quelque chose que tu sens. Voilà. Donc je partage tout ça ce soir, c'est juste parce que je pense que ça, on est nombreux à vivre ces choses, et que tous ces talents, il me semble que oui, on les développe, mais qu'on les avait déjà. Ce qu'on développe surtout, c'est la conscience de ça, le regard qu'on porte dessus.
Et puis, moi qui m'intéresse beaucoup au peuple de la planète Humo, qui nous ont donné une foule de messages, et dont certains traitaient de la télépathie, ils nous disent, ils sont très semblables à nous, au niveau aspect, ils ressemblent à des nordiques, ils peuvent facilement se mélanger à nous sans qu'on les remarque. Mais ils disent qu'au niveau de la télépathie, quand j'envoie un message télépathique à une personne, ou je reçois un message télépathique, quand je l'envoie, il est codé et il a une clé pour le décoder. J'envoie le message et la clé, ça correspond à la personne qui doit le recevoir. Et cette personne-là, en fait, tout le monde le reçoit. Tous les habitants le reçoivent, mais un seul peut le décoder. Il y a une clé spécifique. Il est dans un coffre-fort, il y a une seule personne qui a la clé pour ouvrir le coffre-fort. C'est intéressant, hein, parce que c'est la manière dont la télépathie fonctionne. Le message n'arrive pas seulement à une personne, toutes les personnes le reçoivent, tous les humains de la planète le reçoivent, mais une seule personne peut le décoder. Peut-être c'est comme ça que les médiums, les channels reçoivent aussi leurs informations, mais c'est intéressant ce point de vue-là. Et ils ont eu des problèmes avec une sorte de dégénérescence mentale, une maladie qui est apparue chez eux, qui faisait que tout le monde recevait des cris très très angoissants de la personne malade, et toute la population le recevait parce que c'était déréglé cérébralement et ils ont eu beaucoup de mal à régler ce problème, mais ça perturbait beaucoup. Et une des raisons du voyage des humides sur Terre, c'était pour vérifier si la télépathie fonctionnait au sein des habitants d'une planète uniquement, ou ça pouvait être croisé entre différentes planètes. Ils ne nous ont pas encore dit le résultat de cette expérience. Ils sont venus faire des expériences, collecter des données sur Terre, et en échange, ils nous ont décrit leur mode de vie avec une précision tout à fait scientifique, parce que leur civilisation est basée sur la science. Ils ont même prouvé scientifiquement l'existence de Dieu. Et ils connaissent les choses comme l'âme, les choses hors de l'espace, hors du temps, et ils ont une logique tétravalente. Il paraît que ça révolutionne tout. On a une logique trivalente, je crois, chez nous. Si A égale B, et que B, alors B égale A, enfin.
Mais
voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Si A égale B et que B égale C, alors A égale C. Mais c'est beaucoup plus ouvert, j'aurais du mal à me rappeler précisément, mais c'est une base beaucoup plus ouverte pour la science que de considérer les choses à partir d'une logique tétravalente. Il y a des choses qui, selon eux, existent, et d'autres qui n'existent pas, mais qui rentrent quand même dans les calculs. Par exemple, Dieu existe, l'âme existe, mais ce n'est pas dans la matière, c'est atemporel. Bref, voilà, donc c'est aussi des messages, à mon avis, qui sont destinés à nous guider. Et puis, ils ont récupéré plein d'œuvres d'art, parce qu'eux, ils sont beaucoup plus en retard que nous dans les arts. Et donc, ils ont fait des copies, molécule par molécule, de la Joconde. Ils ont un pavillon de la Terre chez eux, où il y a plein d'œuvres artistiques exposées, les grandes symphonies, ils écoutent ça chez eux, parce qu'ils ont développé la science tellement vite qu'ils n'ont pas eu le temps d'être créatifs pour faire de l'art. Et ils disent que nous, on a eu ce temps-là pour être créatifs, parce que notre science ne s'est pas développée à la vitesse où elle s'est développée chez eux.
Qu'il y a un congrès là où ils
parlent
des
humains.
Les...
Oui, on peut les appeler les humains ou les humites. Oui.
T'as vu qu'il y a un congrès où ils en parlent
tout ça. Il y a un congrès où ils en parlent.
Oui, là j'ai eu l'information dernièrement, un congrès sur l'ufologie. Mais je ne sais pas dire plus, qu'il y a un congrès sur l'ufologie, j'ai vu, je crois que c'est vers Reims ou quelque part comme ça par là. Et que, donc il y a des intervenants qui vont parler d'ufologie, dont un des thèmes sera les humites. Et, alors, les habitants de la planète Humo, que là, ils appellent eux les humains. Comme c'est, voilà.
Alors, la planète, elle est à 14 années-lumière de la Terre, mais ils ont trouvé un moyen de passer à travers les plis de l'univers, donc c'est assez compliqué, mais c'est comme une nappe. Si tu suis les contours de la nappe, les contours des plis, ça fait 14 années-lumière, mais ils ont trouvé un moyen de passer à travers les plis. Et là, ils font un voyage en quelques mois.
C'est ce que font tous les extraterrestres, hein, je pense.
Voilà, oui. Puis il y a des vortex ou des choses qui relient. Alors, selon eux, il y a tout univers à un univers jumeau. Et donc, quand il y a des variations de l'univers jumeau, ça a des conséquences sur notre univers. Disons que ça perturbe un peu. Et on peut mesurer ces perturbations. Et quand ça perturbe un peu, c'est le signal pour eux qu'il va y avoir un pli et qu'ils peuvent partir. Donc, il y a une sorte de météo de l'univers. Il y a des périodes favorables et d'autres où ils ne peuvent pas, parce que sinon, ça mettrait vraiment 14 années pour revenir.
Ça me fait penser, enfin, ça me fait mettre ça en parallèle avec Pierre Garnier-Mallet et sa théorie du dédoublement, où il parle effectivement d'âmes jumelles, d'univers jumeaux. Il dit que tout a un double. La théorie du dédoublement, c'est ça. Pierre Garnier-Mallet, hein, on le trouve sur YouTube.
Sur mon mur Facebook, j'ai posté quelque chose que je trouve important. Savez-vous qu'il existe sur Terre un monsieur qui s'appelle José, je ne sais plus quoi, Carmen, qui est un paysan qui habite au Mexique, qui est un homme déjà un peu âgé maintenant, et qui, depuis des années, a développé une façon de cultiver la terre il s'est inspiré de la façon des Aztèques qu'ils avaient de cultiver la terre. Et il produit depuis des années des énormes légumes, et je dis bien des énormes légumes. Par exemple, des tomates qui font 10 kilos, des choux qui sont... Vous les mettez à côté d'un être humain, ils font 6 ou 7 fois la tête d'un humain. Et donc, en fait, il a travaillé avec une université. Il y a une université, je ne sais plus laquelle, probablement à Mexico, qui s'est intéressée... Enfin, il fut un temps où l'université s'intéressait à ces prodiges agronomiques, agricoles. Et malheureusement, le nouveau recteur, après, a coupé les robinets des crédits. Parce qu'en fait, cet homme, il est très gênant parce que, en fait, grâce à ce qu'il fait, en fait, on pourrait parfaitement nourrir toute la planète. Il n'y aurait pas du tout de famine. Voilà, donc il s'appelle José Carmen. Il y a un type qui travaille avec lui, enfin un intellectuel qui le soutient et qui a écrit un livre qui s'appelle « L'homme qui parlait aux plantes », qui parle avec les plantes ou qui parlait aux plantes. Donc voilà, c'est juste fabuleux. Et en plus, cet homme-là, il sait faire pleuvoir. Alors, il utilise des systèmes de physique, il utilise des grands disques qu'il met, je sais plus si c'est, ça doit être sur la Terre, pas dessous, et ça capte des énergies cosmiques. Donc, il fait un rapport entre les énergies telluriques, les énergies cosmiques, avec la médiation des disques. Moi, j'ai aucune connaissance en physique. Et il obtient donc des résultats extraordinaires. Il a fait pleuvoir dans des régions très désertiques. Donc, évidemment, on ne peut pas obtenir, comme il dit bien, ce qu'il fait. Il ne peut pas l'obtenir sans eau. Et il n'utilise pas de pesticides, aucun pesticide. Ça va sans dire, enfin, ça va sans... Il vaut mieux le dire, mais c'est voilà, c'est complètement écologique. Donc ça m'enthousiasme, je connais ça depuis 2 ans. Là j'ai retrouvé des choses sur un site, parce qu'il y a un site qui a été créé, l'homme qui parle avec les plantes, une page Facebook plutôt. Et donc il y a un film qui est en cours d'élaboration là. Voilà, je trouve que c'est quand même très important pour le nouveau monde de savoir que nous pouvons créer il y a des êtres qui créent énormément de choses au niveau agricole, agronomique, qui sortent vraiment de l'agriculture conventionnelle. Voilà.
Oui, je peux dire une anecdote. Catherine, donc je veux dire, ça peut paraître très superficiel, mais voilà, je vais vous parler de shampoing. Et parce que je pense que les petits gestes quotidiens contribue à changer les choses. Et pour moi, c'est important d'essayer de poser dans mes achats et dans ce que je fais, des gestes qui respectent la nature, qui me font du bien aussi, et qui en même temps sont économiques. Et même si ça peut sortir du système, c'est encore mieux. Alors voilà, j'ai découvert qu'on pouvait se laver les cheveux, faire un shampoing avec 2 cuillères à café de bicarbonate de soude. J'étais super sceptique. Je savais que le bicarbonate de soude était quelque chose de très bien, mais j'aurais pas osé me faire un shampoing avec ça. J'ai vu ça sur une petite jeune fille, là, sur Internet, Alice Boucher, qui fait plein de choses comme ça. Et donc, 2 cuillères à café de bicarbonate de soude dans un demi-verre d'eau. On se verse ça sur les cheveux. Donc, mes cheveux sont des... J'ai des cheveux très fins, qui salissent très vite. J'habite dans Paris. Donc, vous n'imaginez même pas, si vous êtes en province, ce que c'est, comment les cheveux salissent. Et donc, je me suis dit, ça va jamais le faire. Et en plus de ça, mes cheveux très fins, il faut toujours plein de démêlants derrière, parce que, bon, c'est indémêlable. J'ai dit, bon, si on n'essaye pas, on ne saura pas. Donc, j'essaye. Je fais ce shampoing avec ça. Ça ne mousse pas. Donc là, j'étais dubitative de chez dubitative. Je rince. Alors là, déjà, aux surprises, d'habitude, mes cheveux, ça fait un peu paille de fer quand je rince. Et là, c'était plutôt souple. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Donc, je ne mets pas de démêlant derrière. OK, génial. Donc, j'ai fini comme ça. Sécher les cheveux, mes cheveux très propres. Alors, je vous assure, j'étais bluffée. Donc, vu le prix du bicarbonate, le shampoing doit revenir environ, moi, j'ai des cheveux longs, 3-4 € par an. Après, j'ai fait que 2 fois. Je ne sais pas si on peut faire tout le temps des shampoings bicarbonate de soude. Peut-être qu'il faut changer de temps en temps. Ça, c'est possible. Hein. Et je donne un autre truc toujours par rapport aux cheveux. C'est pour les poux. Pour les poux, ce n'est pas la peine d'aller acheter des produits qui coûtent très cher. Vous mettez de l'huile, d'olive de préférence. Vous entourez votre tête avec du plastique, vous laissez ça 2 heures, c'est impeccable. Après, il faut faire quand même 2 ou 3 shampoings. Alors là, je n'ai pas essayé avec le bicarbonate de soude. Oui, parce que je m'occupe d'une petite fille qui a eu des poux. Donc du coup, voilà la petite histoire. Oui, c'est fini, oui. Ah ben oui, parce que les poux sont anaérobies. Donc, j'ai eu l'information, bon, pareil, c'est un scientifique qui en a parlé sur Internet et tout, dans une émission, enfin bref, bon, passons, on s'en fout. Mais les poux, et du coup, j'ai fait ça, j'ai laissé 2 heures entourées de plastique, terminé. Donc, je trouve ça génial, et après, les cheveux étaient tout beaux. Faut bien les laver, bien sûr, et les cheveux étaient tout beaux. Donc voilà, moi, je dis ça, le rapport avec PFC, a priori, il n'y en a pas, mais s'il y en a un, c'est que on sort du système, on arrête d'alimenter le système, on ne pollue plus, on se fait du bien et c'est économique. Donc voilà, moi, alléluia.
C'était la petite chronique
qui ne vit pas sans l'air. Qui s'étouffe.
Voilà, anaérobie, donc les poux ont besoin de respirer, ils s'étouffent quand on fait ce traitement-là. Autre chose à dire?
Après, avec du vinaigre, tu passes le bain.
Alors, à propos du message des Wingmakers, le message dont on a beaucoup parlé il y a quelques mois, la 5e interview du docteur Neruda, donc je m'adresse à Nancy, si tu écoutes. Voilà, je suis intéressé de relire ça complètement, sérieusement, en notant, en me posant les questions qui viennent, et puis en mettant ça en pratique, parce que je pense que c'est un message très profond qui est de nature à aider l'humanité, qui est donné en cette période pour un but bien précis, et il me semble que c'est le moment de nous pencher vraiment sur le contenu. Il a été retenu pendant 15 ans, ce message, avant d'être délivré, parce que l'humanité n'était pas prête. Ça veut dire que maintenant, nous sommes prêts, d'après les Wingmakers, à lire ce gros message de 70 ou 80 pages, qui contient beaucoup de choses, a priori, qui sont utiles à notre croissance, même si l'hologramme de la déception tel qu'ils appellent notre monde serait complètement factice. C'est-à-dire que tout ce à quoi nous pouvons nous référer dans notre monde de tous les jours, de matériel n'existe absolument pas. Ça, dans la non-dualité, on en parle souvent, mais c'est confirmé par cette interview. Donc, ça peut être très déstabilisant de le lire, et puis il faut quand même avoir une base pour retomber sur ses pieds lorsqu'il n'y a plus de matière, il n'y a plus de monde physique sur lequel, ou de croyance même, sur laquelle s'appuyer. Mais en même temps, avec ce courage-là, on atteint la vraie vérité de qui nous sommes. Il y avait des choses à dire.
Oui, je voulais simplement dire que c'est pas l'hologramme de la déception, mais l'hologramme de l'illusion. Deception en anglais, ça veut dire illusion.
Il y avait aussi le mot tromperie, non? Enfin, voilà, l'hologramme de la tromperie. Alors, un hologramme, par nature, c'est une chose qui n'a pas de consistance, pas d'existence, c'est une projection. Et si nous projetions nous-mêmes notre réalité, nous sommes une sorte de boîte noire avec cinq trous, et ces cinq trous sont nos cinq sens. Et nous percevons la réalité à travers les informations qui passent par les cinq trous. Et imaginez qu'il y a énormément de sensations que nous ne percevons pas, parce que les sens ne perçoivent pas tout. Et nous construisons notre monde uniquement à partir du toucher, de la vue, de l'odorat, de l'ouïe, etc. Il y a une vidéo excellente sur la cabale, mais pas la cabale au sens complot, hein, le texte ésotérique, hein, avec deux B, il y a un K, qui nous raconte qu'est-ce que c'est que la réalité, qui nous pose la question en nous montrant en fait que nous raisonnons comme une boîte noire et nous avons des fragments de réalité qui nous parviennent et nous construisons notre monde avec ça, et rien ne nous prouve que c'est vraiment le monde, parce que c'est des signaux qu'on reçoit. En plus, ces signaux sont interprétés par le cerveau. Mettez-vous une semaine la tête en bas et les pieds en haut, et au bout de même pas une semaine, le cerveau remet l'image à l'endroit. Parce que normalement, notre œil étant une lentille, on devrait voir les choses à l'envers. Je devrais te voir la tête en bas et les pieds en haut. Parce que si tu prends une vraie lentille et que tu la mets devant une personne, tu vois la personne à l'envers. Notre œil, il n'y a pas une double lentille, il y a une simple lentille. C'est le cerveau qui remet l'image à l'endroit. Et donc, si tu modifies ta position pendant un certain temps, même si tu restes couché ou la tête en bas, au bout d'un moment, le cerveau va remettre l'image pour que tu la vois à nouveau. Ça veut dire que y a la perception et il y a un traitement. C'est un programme informatique. Voilà. Ouais. Il y a un traitement. On applique un programme qui est comme un programme d'ordinateur à ce qu'on perçoit, et on va dire ça c'est jaune, ça c'est rouge, alors que c'est juste des ondes électromagnétiques qui passent, qui vibrent. Mais on va dire ça c'est bleu, et on va se faire des conventions, ça c'est orange, ça sent bon, ça sent pas bon, mais en fait tout est inventé.
Quand on fait l'expérience de l'appareil photo avec la lentille et la chambre noire, on s'aperçoit qu'effectivement dans l'appareil photo, la plaque photo enregistre une image inversée. C'est là où on peut voir qu'il n'y a pas de cerveau derrière, et l'image est véritablement inversée, on la voit. Alors que justement, on a le même système dans notre cerveau, dans notre en fond d'œil, mais le cerveau va interpréter ça et va redresser l'image. C'est ça qui se passe.
C'est intéressant de se demander pourquoi le cerveau redresse, hein? Pourquoi on ne continue pas? Donc il y a une certaine intelligence qui dit c'est mieux comme ça.
Tu parles, en fait, quand tu parles de boîte noire avec des cinq trous, c'est vrai que c'est un peu hard. Mais je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire qu'en fait, on vit dans un monde qui a tout codifié de façon assez rigide. Ça fait des conventions qui ont du mal à être dépassées, si c'est bien ce que je comprends. C'est vrai que ce serait assez complexe de ne pas avoir de conventions pour pas mal de choses, parce qu'à ce moment-là, chacun aurait ses codes, ses vérités, on aurait beaucoup de mal à se comprendre. Les êtres humains auraient, enfin c'est très philosophique, les êtres humains auraient beaucoup de mal à se comprendre. Il faut bien certaines conventions de numération, de couleurs, je ne sais pas, enfin de plein de choses. Par contre, c'est vrai que quand tu parles des sens, moi ça m'interpelle beaucoup parce que je suis extrêmement intuitive, un peu médium, et je sais que j'utilise beaucoup mon intuition, et si je ne la suis pas, à chaque fois je me plante. Mais je l'utilise, probablement peut-être pas encore assez, mais il me semble que je fais partie des gens qui ont une intuition fort développée. Je sens souvent les choses à l'avance, je peux aussi deviner un certain nombre de choses sur les, par exemple, les villes d'origine des gens, où il y a des choses de gens que je ne connais pas que je devine. Bon, des gens se demandent pourquoi, c'est parce que je sais pas, j'ai un sixième sens. Je vois l'histoire des sens physiques, c'est vrai que c'est extrêmement limitatif. Je suis effectivement persuadée, puisque je le vis à l'intérieur de moi, que nous avons un sens qui est aussi puissant que la vision, l'odorat, le goût. C'est ce qu'on appelle le sixième sens, l'intuition, mais il y en a probablement encore d'autres. Oui, enfin, là, je ne sais pas si Cathy, elle dit celui-là, parce qu'en fait, tout à l'heure, je me suis centrée sur la construction de géométrie stellaire là, d'Avi, en cuivre, la construction en cuivre, et je lui ai donné un ordre. Je lui ai demandé je me suis focalisée pendant quelques minutes sur lui. Je lui ai demandé, comme Cathy, en fait, l'a fait, de s'arrêter. Il a mis un peu de temps, mais il l'a fait. Et ensuite, de tourner dans l'autre sens, et il l'a fait. Alors, je ne sais pas si ça fait partie des sens. Ça fait partie de la focalisation de la pensée. Oui, des pouvoirs de la pensée. Enfin, voilà, juste, j'étais un petit peu frappée par l'idée de la boîte noire avec les trous. C'était un peu violent. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, effectivement, parce que... Eh bien, je pense à ces soi-disant magiciens qui sont là apparus, enfin, que Avi et d'autres ont envoyés pour qu'on les visionne. Moi, à aucun moment, j'ai douté. Je sais que j'ai un copain qui a pas supporté, enfin, qui dit penser qu'il y avait des trucages. Et pour moi, c'était impossible qu'il y ait des trucages. J'avais tout à fait une autre perception de cette réalité-là. C'était du domaine, mais enfin, mais pourquoi y aurait-il un trucage? C'est pour moi l'anticipation du monde tel qu'il pourrait être dans quelques temps, peut-être probablement encore pas mal de temps, mais quoi qu'on n'en sait rien, puisque les choses vont peut-être changer beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Donc effectivement, il y a des gens qui ont des filtres très épais et d'autres qui ont des filtres plus minces. Bon. Aïe.
Alors, il y a quelque chose qui est assez impressionnant, qu'on peut trouver sur Wikipédia, que l'article s'appelle « Le cerveau dans une cuve ». Et c'est juste une expérience de physique quantique que des physiciens ont essayé d'imaginer. Leur supposition, c'était « Le cerveau est un grand ordinateur qui reçoit des impulsions nerveuses, comme du langage binaire, et qui les traduit ». C'est un programme de traduction et qui fabrique la réalité avec ça. Qu'est-ce qui se passerait si on avait un ordinateur suffisamment puissant pour générer les mêmes impulsions que l'ouïe, l'odorat, le toucher, les sens que nous avons? Je ne parle pas de l'intuition qui pour moi est autre chose. L'intuition c'est plus une connexion à l'universel. Ce n'est pas physique réellement. Alors, ces physiciens disent que si on enlevait le cerveau du corps, on le mettait dans une cuve et qu'on le branchait à cet ordinateur, donc le cerveau est nourri, alors nous pourrions, si on injectait les bonnes impulsions, nous pourrions avoir exactement les mêmes ressentis que dans notre réalité de tous les jours. Que nous pourrions voir des choses, nous déplacer, sentir, goûter des choses, avoir la sensation de manger. Et après, La fin de l'article, c'est, et là ça rappelle beaucoup Matrix, qu'est-ce qui nous dit que actuellement notre cerveau n'est pas réellement dans une cuve, en train d'être nourri d'impulsions nerveuses fausses. Et là, on peut penser aux implants, on peut penser à des tas de choses qui fausseraient nos véritables perceptions. Parce qu'on voit la lumière d'une bougie, mais le spectre de la lumière est énorme, on n'en voit qu'une toute petite partie. On ne voit pas l'infrarouge, on ne voit pas l'ultraviolet, on ne voit pas les rayons X, on voit vraiment une minuscule partie. Le spectre des odeurs qu'on peut sentir est minuscule. Un chien a 50 fois plus de 100 fois plus de capteurs d'odeurs que nous. Donc tous nos sens sont extrêmement limités et on peut imaginer qu'on voit un très faible pourcentage, qu'on ressent, qu'on vit un très faible pourcentage de ce qui existe. Et donc là, ça ouvre la question, qu'est-ce que c'est que la réalité, hein? Est-ce que c'est ça la réalité, ce qu'on perçoit? Qu'est-ce que le système d'interprétation, quel rôle il a à jouer? Parce qu'il suffit qu'il y ait un bug dans le système d'interprétation pour que tout d'un coup on ressente différemment, on goûte différemment, on pense même différemment. Donc ça va très loin, hein.
Là, dans ce que tu racontes, ils avaient imaginé connecter un cerveau humain sur un ordinateur, c'est ça? Et donc, ils trouvaient que le résultat, c'était que ça pourrait donner quelque chose d'identique, c'est-à-dire que le cerveau pourrait effectivement commander, c'est ça? C'est ça ou c'est pas ça?
C'est une supposition, hein, c'est pas une expérience, c'est une supposition.
D'accord. Non, c'est juste parce que, moi, ce qui me gêne dans ce genre d'expérience supposée par les scientifiques, c'est qu'il y a une confusion dans la science conventionnelle entre le cerveau et le... Enfin, il y a un problème de compréhension, puisqu'ils pensent que c'est le cerveau qui agit. Le cerveau, il agit rien du tout. Le cerveau, c'est le récepteur de quelque chose qui est en plus. Donc, si on prend un cerveau qui n'est pas connecté à de la... Le cerveau n'est pas la conscience. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a une confusion dans la science conventionnelle entre la conscience et le cerveau. Donc, le cerveau, il ne va rien commander du tout sur un ordinateur. C'est la conscience qui commande l'ordinateur via un cerveau. Mais s'il n'y a pas de conscience, il peut y avoir tous les cerveaux qu'on veut, ça ne va rien faire. Donc c'est... voilà.
Merci. Oui, je ne parle pas de conscience du tout, on parle de perception. Ce n'est pas du tout la même chose. Je perçois les choses, mais est-ce que c'est une perception qui est vraie ou pas vraie, hein? Si c'est un flux de qui passe à travers mes yeux, un flux de lumière qui est ensuite codée. On voit qu'au passage, le cerveau, pour remettre l'image dans l'autre sens, pourquoi il n'inventerait pas des détails? Pourquoi l'image ne serait pas ce que j'ai envie de voir plutôt que ce que je vois réellement? On ne parle pas de conscience, hein, c'est la perception.
Mais c'est pareil.
Non, la perception, ce n'est pas la même chose. C'est ce que mes sens reçoivent.
C'est qui perçoit? C'est toujours la conscience qui perçoit. La conscience, mais bien sûr que si. C'est la conscience qui perçoit... qui fait une expérience, bien sûr que si, à travers, via un outil qui est le cerveau, à travers un véhicule. La conscience fait l'expérience du vivant à travers la perception, et elle perçoit, parce que nous sommes des percevants, mais nous qui, la conscience à travers nous, et elle perçoit à l'aide d'un outil qui est le cerveau, et qui agit dans un véhicule. Absolument. S'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas même pas de perception.
Et alors, les papillons qui ont des perceptions beaucoup plus larges, par exemple de la lumière, qui ont
la conscience.
Eh bien,
c'est une conscience plus basse, mais il y a la conscience aussi. Conscience collective.
Oui, ça, mais pour moi, c'est pas connecté à, une histoire entre la perception et la conscience.
Par rapport aux papillons, c'est une conscience collective, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la conscience en tant qu'individu d'être un individu, un être vivant qui est en train de voler, qui a la terre, qui a le ciel, etc. Ils n'ont pas cette conscience-là, mais il y a une forme de conscience très atténuée. Donc c'est ce qui leur permet d'avoir certaines perceptions. Et les perceptions sont d'autant plus développées que la conscience est développée, puis c'est toujours le degré de conscience qui s'incarne et qui utilise le cerveau qui fait qu'on perçoit de plus en plus. Et...
Je voyais la perception liée au cerveau et la conscience. Pour moi, le cerveau, c'est un outil, mais je ne voyais pas la conscience... lié de cette même façon au cerveau.
Mais je ne saurais pas dire justement. Je ne saurais pas dire.
Mais parce que pour moi, la perception. La perception, s'il n'y a pas l'observateur, qu'est-ce qui est perçu? Voilà. Donc l'observateur, c'est toujours la conscience. Donc il faut d'abord qu'il y ait une conscience. Et d'ailleurs, il n'existe rien d'autre que de la conscience au départ de l'action. Il faut d'abord qu'il y ait une conscience pour qu'il y ait expérience. Mais pour que l'expérience puisse se faire, il faut un intermédiaire, donc qui est en l'occurrence notre véhicule équipé d'un cerveau qui va renvoyer ça et d'un ego qui va permettre de faire les choses. Mais s'il n'y a pas la conscience qui préside en amont à tout ça, il n'y a rien. C'est pour ça qu'on ne peut pas désolidariser aucune des fonctions du corps, que ce soit le cerveau, l'ego et le corps, de la conscience. La conscience peut exister seule sans tout ça, mais tout le reste, voilà, le cerveau, corps et ego ne peuvent pas exister sans la conscience. Donc isoler ces choses ne va jamais rien permettre s'il n'y a pas la conscience. Non. Voilà.
Voilà, chers amis de PFC, je crois que c'est la fin de la réunion. On pourrait parler des heures sur ces sujets passionnants. Nous atteignons quand même la fin de cette réunion, provisoirement. Voilà, bonne semaine à tous et puis à très bientôt.